Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette quatrième séance du séminaire sur le documentaire. Et on fait une petite bascule dans la mesure où les cinq prochaines séances seront reliées ou jumelées avec la rétrospective Claude Lanzmann. Et toujours avec le même esprit, c'est-à-dire des personnes qui viennent parler de leur travail, de leur recherche, à partir d'un film qu'ils n'ont pas signé. Alors on reçoit dès aujourd'hui Mehran Tamadon, qui nous parlera de Sobibor, une historienne du cinéma, Jennifer Cazenave, Tal Brutman, un historien, également Anya Szepanska, qui est universitaire et réalisatrice, et Nicolas Bouchot, qui est comédien et metteur en scène. Donc on reste, on va dire, dans le même esprit, mais tout en jumelant toutes ces séances avec la rétrospective Claude Lanzmann, qui a commencé depuis le 3 novembre, ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille Mehran Tamadon à parler de Sobibor et aussi de parler de son travail à partir éventuellement de Sobibor. Ce sont toujours des paroles non magistrales, pas académiques ici, on réfléchit. Mehran est un cinéaste franco-iranien dont le travail porte sur la parole, sur la relation, sur la question de la violence, sur le pouvoir du cinéaste et du cinéma, c'est-à-dire tout un tas de choses qui, c'est jamais dans tous les cinéastes qui seront amenés à montrer leurs films ou à parler du cinéma de Lanzmann, il ne s'agira jamais de comparer, de dire c'est le continuateur ou c'est une filiation, mais plutôt de raisonner, comme pour Mehran aujourd'hui, par écho et par correspondance. Et je crois que le travail de Mehran, dont il nous parlera aussi, se relie à celui de Claude Lanzmann, mais il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Voilà. Mehran, est-ce que tu dis quelque chose avant ? Voilà. Donc on lance la projection. Donc Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. On projette le film et ensuite nous en parlerons. Très bonne projection, à tout à l'heure. Bien, vous pouvez accueillir
Alors moi, je suis pas. Merci de m'inviter ici pour parler du film. Alors bon, moi, je ne suis pas spécialiste de Lanzmann du tout. Je fais des films et puis bon, c'est vrai que ce qu'il fait me fait réfléchir, donc il y a toujours un ricochet entre ce que lui fait, ce que, enfin, disons, il m'a donné des idées, quoi, pour réaliser mes propres films. Peut-être que là, en le revoyant, donc pour la troisième fois, parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps, pour réfléchir un peu au débat, et là cette fois, et il y a quelque chose qui me vient en tête, qui est pas forcément uniquement sur la forme du film, mais ce qui est sur le sens, et il le dit très bien, donc le personnage, c'est que c'est très compliqué lorsqu'on est victime, lorsqu'on est dans la situation du victime, de agir. En fait, d'un coup, lorsqu'on est et les Allemands, ils s'y attendent pas. C'est ça qu'il dit. Il dit les Allemands, ils s'attendent à ce qu'on soit des objets. Donc ça, c'est tellement établi que le mec, il est même pas surpris d'un coup qu'on devienne sujet et qu'on agisse. Et donc, c'est ce qui m'a frappé, moi, personnellement, c'est un peu ça aussi ma question dans mes films à moi, c'est que comment, alors que finalement, tout est construit pour que tu subisses, tu arrives à dépasser ça et faire. Ne plus subir, mais ne plus être l'objet des Allemands, mais de devenir sujet. Donc ça, c'était moi, la première chose qui m'a vraiment frappé là-dessus dans le film, et peut-être que l'une des raisons, c'est aussi que c'est des soldats à la base qui sont là. C'est des soldats, et peut-être les Allemands, l'erreur qu'ils ont fait, c'était de considérer les soldats de la même manière que les autres victimes. C'est-à-dire que les autres, les soldats, ils sont là de toute façon pour agir, quoi. Et lui, il avait une prédisposition à ça. Donc du coup, vu qu'il avait déjà franchi plusieurs camps, réussi à fuir de plusieurs camps, c'est qu'il avait déjà cette espèce Bah, lui dit rage, mais moi je dis voilà, donc c'est son refus de la position de fuir cette position de victime.
Alors, il me semble que ce n'est pas le cas de Lerner, qui n'est pas un soldat.
Oui.
Contrairement à.
Lui, il n'est pas soldat. C'est ça que je dis.
Voilà.
Je dis
il a
c'est ça qui est intéressant. C'est que lui, il n'est pas soldat, mais il a cette prédisposition à agir. Alors que les autres, si, quoi. Les autres et les Allemands, si on doit faire ce travail que fait un peu Lanzmann en disant qu'est-ce qu'il avait dans la tête, est-ce qu'il avait peur, est-ce qu'il se. Parce qu'il essaye dans son désir intarissable de comprendre, c'est ça qui vraiment est étonnant chez Lanzmann, c'est que là on ne le voit pas poser beaucoup de questions, mais dans tous ses films il pose tellement de questions, à chaque fois les questions sont tellement précises et justes. Là il pose la question de la taille de la hache et donc, si on doit aller jusqu'au bout de ce désir de comprendre de Lanzmann, on pourrait se dire, est-ce que si eux, ils agissent, c'est parce que c'est des soldats et que lui, il accompagne des soldats, quoi. Et c'est ça qui fait qu'ils y arrivent. Voilà, en tout cas, ça, c'est une chose qui, d'un coup, je me suis demandé, alors peut-être dans la salle, il y a des idées là-dessus ou des réactions, ça m'aiderait. Après, moi, dans la version que j'avais vue, il n'y avait pas les cartons du début. Tu sais, le carton du début n'y était pas. Et ça fait vraiment la différence. Parce que le carton. Donc, on est avec Lanzmann dès le début.
C'est le carton lu.
Oui, le carton lu.
Le carton lu, c'est ça aussi qui est. Non. Ah bon? Non, je disais, c'est le carton lu, et c'est une des idées du film. Je vais en reparler tout à l'heure, mais enfin, je vais reposer la question tout à l'heure.
Oui. Non, le carton lu, et puis le carton qui fait qu'après, il dit pourquoi on regarde tout ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'on regarde tous ces paysages? Et ce carton lu fait que, donc, du coup, il pose le cadre, disons, il pose son point de vue dès le début, qu'après, il raconte il raconte le film, même jusqu'à la fin. En fait, l'enjeu n'est pas ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il raconte le film jusqu'au bout, presque, dans ce carton du début, qui fait qu'après, on suit l'histoire autrement. Quelque part, on est à l'intérieur d'un travail de témoignage sur la mémoire. Alors moi, c'est vrai que lui, il travaille là-dessus, il travaille sur la mémoire, il essaie de récolter ça. Et donc toute la difficulté lorsqu'on travaille sur la mémoire, moi, disons, toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le présent il devienne important et qu'on soit pas que sur du passé, en fait, parce que au bout du compte, on a quelqu'un devant nous, quoi, et cette personne-là devant nous, est-ce qu'elle s'emmerde à nous raconter ses histoires, est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vit, et, disons, dans le documentaire, c'est ça, le documentaire, filmer la mémoire, la difficulté pour moi, c'est de faire exister le présent. Tout film qui parle du passé montre quand même un présent, c'est le présent de celui qui est devant la caméra. C'est ça qu'on voit, on ne voit pas un passé uniquement, on voit son présent. Et toute la question, c'est finalement comment faire exister son présent. Et lui, il y arrive d'abord par l'interprète. L'interprète, elle a pour moi un rôle essentiel, c'est que elle se fait couper la parole plein de fois. Des fois, on n'entend pas lui, elle y va plus loin que ce que lui dit.
Kaufmann.
Oui.
Ouais. Il normalement sera là le 3 décembre. Sûr, le 3 décembre sera là pour accompagner la deuxième projection de Shoah.
Et l'interprète fait aussi autre chose, moi je trouve, c'est que on comprend que on est dans un vrai présent, et ce vrai présent, en fait, il peut pas. Disons, ce qu'elle dit, elle, ce qu'elle. D'ailleurs, on la voit. Moi, je la vois un peu à ses gestes, à montrer, par exemple, lorsque lui il marche sur la main de l'Allemand qui est par terre, je la vois montrer parce que lui. Il reprend au milieu de son explication un peu comme quelque chose qui est hors champ. Alors ça se trouve, je me raconte des histoires, mais voilà, c'est un peu ça que je me raconte, c'est qu'il est en train de la regarder, elle qui imite les gestes, et il se passe donc du coup quelque chose dans cette pièce, quoi. Et c'est pour ça qu'il arrive à la couper, parce qu'il ne comprend pas le français. Il arrive à la couper parce qu'il la voit montrer un peu avec les mains pour dire, voilà, il s'est passé ça, ça, comme ça, comme ça. Et donc, lui, il la coupe, ça dit aussi quelque chose du temps dans lequel nous on est, qui est le temps présent. Et ça qui fait que c'est son témoignage. Et donc, lendemain, il essaie tout le temps de ramener le présent en disant, par exemple, t'es pâle maintenant, quand tu racontes cette histoire-là. Ça te fait quelque chose.
Ce qu'on ne voit pas, d'ailleurs.
Ce qu'on ne voit pas. Vous n'aurez pu travailler l'étalonnage.
On l'entend renifler très brièvement, donc on sent bien.
C'est, sur cette question du présent, je pense qu'on c'est le mot que Claude Lanzmann lui-même a beaucoup utilisé, qui est que son travail est un travail d'incarnation. Et effectivement au présent. Et puis ça me fait penser à une citation de lui qui dit que, par rapport à la traduction et par rapport à la question du témoignage, que les, alors je sais plus dans quel sens, mais que les voix sont des images et les images sont des voix. Il dit que c'est quelque chose qu'il a découvert et presque qu'il a toujours su, en tout cas, comme cinéaste. Alors, peut-être sur la question justement de l'incarnation, tu as déjà commencé à en parler, et sur cette question, c'est aussi un très bel aphorisme, je trouve, que les voix sont des images et les images des voix. Voilà, enfin, si aussi ça t'inspire autre chose.
Moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus, parce que dans le livre de l'Exode, il est dit que Moïse vit la parole divine. Et il y a beaucoup de commentaires qui se sont égarés, notamment chez les chrétiens, où dans la Bible écuménique, la traduction, c'est « il perçut la parole divine », ce qui est une jolie façon de traduire. Mais Rashi, dans le commentaire, dit qu'il vit ce qu'on ne voit pas. Et donc, l'idée qu'on peut voir la parole, c'est une idée qui est assez ancienne et assez bien ancrée. Et je pense que tu as mille fois raison de souligner ça. C'est exactement ce qu'il met en œuvre, finalement.
Oui, alors, est-ce que vous avez des remarques ou... Non, pas de remarques. Voilà.
Mérane, je voudrais te relancer sur cette question de la traductrice simultanée. Je suis tout à fait d'accord avec toi et avec la scène que tu vois jouer, la scène de l'interprétation et de la réaction de Yehuda Lerner. Alors, Francine Kaufmann était aussi dans Shoah, j'imagine. Hein, c'est, dès qu'il y a de l'hébreu, c'est elle.
Là, c'est du yiddish, c'est de l'hébreu.
C'est de l'hébreu, ça, oui, c'est de l'hébreu. Et alors, moi, je la trouve absolument fabuleuse, parce qu'elle y met une vie qui est à elle, et qui est d'une sincérité, d'une présence totale. Alors, moi, j'aimerais bien savoir... comment Lanzmann avait prévu ça? Est-ce qu'il s'était dit, j'aurai une traductrice simultanée, je laisse la parole intacte du témoin et ma traductrice va abonder? Ou est-ce qu'il s'était dit, sans doute pas, mais c'est toujours un dispositif intelligent qui produit des merveilles, est-ce qu'il s'était dit, il va se passer quelque chose? Moi, j'aimerais beaucoup savoir comment il avait pensé ça, parce que ça...
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est là l'étincelle.
Tu sais peut-être ça, non? Mais, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà eu...
Il y en a dans la salle, plusieurs même. Il n'a jamais été question, en tout cas pour Lanzmann, de rompre la continuité et cette triangulation. Oui. Voilà. Ça fait partie de l'éthique qui est née pendant Shoah. Et puis... aussi de la dimension babélienne, alors qui est née du tournage de Shoah et qui, mais donc je vais passer la parole à Laura Koppel qui va
Bonjour, moi je ne sais pas exactement sur ce tournage-là, puisque je n'y étais pas, mais ayant fait tous les débats avec Lanzmann au moment de la sortie du film, j'ai quelques éléments, sachant qu'après, j'ai travaillé avec lui. Et ce que vous dites, c'est passionnant. Sur ce tournage-là, qui en fait fait partie de Rush de Shoah, et la personne qui pourrait vous répondre très très précisément, elle sera là dimanche, c'est Caroline Champetier, qui était assistante sur tout ce qui est la partie de tour, des campagnes de tournage de Shoah, dont est tiré ce, tout ce qui est filmé avec Yehuda Lerner. En revanche, je trouve passionnant que vous parliez justement des voix et des langues, le côté Babel, et j'ai envie de vous relancer sur la question du montage, parce qu'il y a effectivement des moments où, en fait, il y a comme une... moi, je ne parle pas l'hébreu, quand je vois ce film, j'ai l'impression que je comprends tout ce qu'il dit. Par ailleurs, peut-être ça va vous relancer pour la suite, je sais, puisque ça c'était de première main, on va dire, pendant les débats que j'ai animés avec Lanzmann, que justement ce tournage-là, et Caroline pourra vous en dire encore plus lorsqu'elle sera là, c'est arrivé en toute fin de campagne de tournage. C'est-à-dire qu'ils étaient épuisés, ils devaient repartir en France, et c'était un vendredi soir. Hein ? Et justement, c'était un vendredi soir, Francine Kaufmann voilà, était un peu pressée de rentrer pour le Shabbat. Et ce qui est beau, c'est que Lerner, au début, vous vous souvenez, on ne le voit pas apparaître, en fait. On le voit, c'est incroyable, hein, on ne le voit pas apparaître pendant 20 minutes du film, à part la première image. Et c'était aussi parce que, justement, il y avait quelque chose d'un peu fatigué, d'un peu éteint. Et c'est une manière pour moi de vous répondre, en tout cas d'apporter des éléments sur justement ce qu'on voit, elle a effectivement toutes les parties en Israël de Shoah. Donc il y avait déjà une habitude de tourner avec la personne qui était filmée, la traductrice, Claude, et il faut penser l'équipe, donc en 16 millimètres, donc l'opérateur et l'assistant opérateur.
Et l'ingénieur
du son. Et l'ingénieur du son. Voilà, Bernard Aubouy. Donc il y a un dispositif, mais ce qui est intéressant, c'est comment à partir de ce dispositif, quelque chose de, vous parliez du présent et de la vie, de la parole vive de Lerner réapparaît. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu les interrogations que vous aviez sur le tournage.
Moi j'ai senti ce que vous dites, vous ne savez pas qu'il était fatigué, mais on sent, hein. Non, même Lanzmann, il est crevé quand même, hein. Ça se sent. Enfin, moi, personnellement, j'ai cette impression. J'ai l'impression qu'il est fatigué parce que je le trouve moins vif, moins au taquet. Non, pas uniquement parce que c'est... Non, même dans sa façon de questionner, il est... Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu des autres films, quoi, en tout cas de la Shoah, et puis, par exemple, pourquoi l'Israël, je trouve que là, il a le ton qu'il a, il est plus distant. Bon, après.
Ce qui l'illumine, c'est la joie d'avoir réussi. Il est illuminé après par la joie d'avoir réussi, d'avoir fait une étincelle avec les dents de sa victime, de sa deuxième victime. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens donc du témoignage de Caroline Champetier, parce qu'il y a eu une projection de Sobibor le 15 octobre dernier, où c'était comme un peu un devoir de faire cet entretien. Ils avaient la conviction qu'ils n'intégreraient pas le montage de Shoah, mais que c'était bien de l'avoir fait. Voilà. Et effectivement, c'est de la seconde main, puisque apparemment dans les rushs, le début de l'entretien est assez tendu. Parce qu'il secoue un peu Lerner, qu'il trouve endormi, mauvais, quoi. D'accord. Et aussi, visiblement, assez tendu avec Francine Kaufmann, parce qu'il n'est pas content de sa traduction.
Voilà. D'accord.
Mais c'est pour revenir là-dessus. Il n'y a pas de témoignage chez Lanzmann s'il n'y a pas de témoin du témoin. Ouais. Contrairement à ce qu'on voit à la télévision, où le témoin est derrière une vitre. Là, le témoin, il est dans le monde avec nous, et il y a des gens qui l'entendent, ce que vous avez dit de l'équipe. Et donc, un témoignage s'est porté devant des témoins. Et donc, ça devient vivant. C'est ça, son système, qui est quand même anti-télévisuel.
Tu vois, c'est quand même un sacré pari de dire qu'il y a quelqu'un qui va traduire derrière, et on va le voir, lui, silencieux, avec elle qui traduit. Alors que lui, on n'a pas compris quand il parlait en hébreu avant. Et c'est quand même un sacré pari de dire que le présent, il est tellement important qu'on ne va pas commencer à le saccager, le saucissonner, rajouter autre chose ou couper ou tout ça, quoi. Le présent, il est tellement important. Et d'ailleurs, on lui fait confiance du début à la fin. On se dit même qu'il n'a pas dû couper lorsqu'il est sur les paysages. Tu vois, on est un peu dans la même logique. Et c'est ça, à mon avis, qui est... Parce que moi, je me suis posé la question de comment filmer dans un pays où on ne parle pas la langue, dans d'autres pays, tout ça. Et j'avais l'exemple de Shoah en tête. C'est quand même un sacré pari, quoi. C'est vraiment être sûr que ce qu'on est en train de filmer est unique au monde, quoi. Et il a cette certitude-là. Et il se dit, voilà, donc le spectateur va prendre ce temps de le regarder silencieux et de l'écouter elle, et inversement.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui.
Juste une petite chose, une spécificité de cette interview-là par rapport aux autres, c'est que Claude Lanzmann ne savait rien sur Lerner. D'habitude, il arrivait complètement armé de savoir.
D'accord.
Et en l'occurrence, justement, il ne savait rien. Ça éclaire aussi peut-être pour vous. Et puis, mais je trouve que ces questions sont quand même assez vives. Enfin, je veux dire,
oui.
Quand il demande est-ce que l'Allemand avait un pressentiment, quand même, c'est des questions fortes. Hein, qu'il,
oui. Non, parce qu'il titille. Moi, je l'ai vu souvent titiller beaucoup les gens qu'il filme. Là, il cherche pas trop à le titiller, quoi. Il est plutôt. Il dit alors, vas-y, la suite.
Ouais.
Donc, il raconte. Il dit qu'est-ce qui s'est passé là. Mais d'habitude, il titille, il cherche un peu les... C'est hyper intéressant, moi j'aime beaucoup quand il fait ça. Mais là, il ne le fait pas. Bon, je trouve que c'est un peu une autre posture. C'est très bien, hein, mais c'est tout simplement que... c'est pas toujours, il n'a pas toujours cette posture-là. Par exemple, dans Pourquoi Israël, il titille les gens, quoi.
Ouais, ça...
En permanence, du début à la fin. Il dit, tu ferais mieux de rester ici au lieu de partir aux États-Unis. Est-ce que tu n'as pas l'impression que où tu iras, tu seras malheureux aux Russes, là, quand il est à plein d'endroits, il fait ça. Là, il ne dit pas... voilà. Pas... Bon, enfin, là, il ne peut pas le faire avec lui, parce que ce n'est pas la même question.
Voilà.
Mais...
Parce que lui s'est levé et a pris cette hache, et c'est un acte tellement unique qu'il...
Oui, oui, non, mais c'est vrai, ce n'est pas du tout la même chose, mais... le conservateur du musée dans l'autre film, il le cherchait aussi un petit peu. Là, il le fait pas, quoi. Bon, peu importe. Allez-y.
Oui.
Bonjour, merci pour ces discussions qui sont passionnantes. Je voulais savoir, vous avez dit que les films de Lanzmann vous avaient permis de réfléchir à vos propres œuvres, et je voulais savoir en quoi, s'il vous plaît.
Alors peut-être des fois, c'est vrai, c'est pas forcément évident dans ce film. Moi, j'ai la posture de ces autres films, et qui, en plus, je filme même pas. C'est-à-dire, je filme même pas ça comme ça, parce que moi, je mets en place des dispositifs. Enfin, peut-être, je sais pas si vous avez vu un ou deux films, mais en tout cas, voilà, moi, je mets en place des dispositifs, et je suis vraiment un personnage à l'intérieur de mes films. Lui aussi, hein, il est personnage, mais lui, il essaye de faire parler l'autre, souvent en posant des questions toujours très précises, qui fait qu'on visualise la scène, ce qui... Et là, c'est pareil, on visualise hyper bien, mais j'ai en tête une des séquences de Shoah, où le monsieur, il est en train de raconter les corps qui étaient... Pardon, c'est horrible, mais en tout cas, c'est la scène du film. C'est les corps qui sont entassés dans les chambres à gaz lorsqu'ils ouvrent la porte. Et on comprend où est-ce que les gaz étaient que le gaz était à tel endroit, et qui fait que la colline de Cor était un autre endroit pour, par exemple, parce que les gens ils voulaient respirer, donc il fallait qu'ils montent. Ils montent vers en hauteur, et on voyait les plus costauds qui sont en haut, les plus faibles qui sont en bas, et puis là c'est plus la loi de la générosité ou de l'entraide, c'est la survie qui fait que ceux qui ils s'entassent en fonction quelque part de leur. Moi, c'est ça qui m'est resté. Vous avez une meilleure mémoire que moi sûrement là-dessus, et toi aussi. Mais et voilà, donc tous ces détails là d'aller chercher vraiment la précision. C'est ça qui fait qu'on, alors qu'on a juste une personne devant nous qui raconte l'histoire, on voit la scène et on comprend la scène. Et Lanzmann, il a cette, ce besoin de comprendre, mais aussi cette cruauté d'aller appuyer à l'endroit où l'autre va se rappeler, il va avoir mal. Lui, il a pas mal parce qu'il est dans une espèce de jouissance de ce qu'il raconte. Mais à d'autres moments, les gens ont mal. Les gens ont mal de raconter, de dire. Et Lanzmann, il le fait, même avec le coiffeur, il le fait. Voilà. Et donc, et il dit, tu le fais pour le cinéma, c'est important. Pas pour le cinéma, pour l'histoire, tu le fais. Et donc, moi, je dirais que.
C'est le terme que Éric Marty, en présentant Pourquoi Israël, a utilisé d'empathie impitoyable. Mmh. Je trouve que c'est une très belle. Et qui, me semble, ne te caractérise pas. Tu es empathique, peut-être impitoyable, mais peut-être plus avec toi qu'avec les autres. Oui. Mais dans tes films, on a. Peut-être ça facilitera cette transition qui est toujours un peu délicate du film d'un autre et de quel autre, et vers son propre travail. On a ce qui est très intéressant parmi plein de choses dans le travail de Mehran, c'est sa position de metteur en scène. Et on a préparé. J'ai préparé, dans le plus grand secret, quelques captures d'écran de ces quatre films où on va voir des positions de metteur en scène et de position de ton propre corps dans le cadre. Et c'est vrai que Sobibor est sûrement le film le moins évident, voilà, puisque
sauf qu'il est là par la voix, sauf et surtout à la fin.
Sauf par la voix.
En fait, moi, pardon, juste un moment, c'est quand même, je trouve, la manière dont il lit les chiffres, c'est une performance. Je pense qu'il le lit d'une traite, en fait. Vraiment, je sais pas, vous savez peut-être mieux que moi. J'ai l'impression que ça n'a pas été coupé 10 000 fois en disant.
Ce qu'a dit Caroline Champetier, elle le redira peut-être quand elle fera elle aussi dimanche après-midi, là, mais ce qu'elle a dit au mémorial, c'est qu'elle, en plus, ça, c'est quelque chose, elle était sur les deux tournages, c'est-à-dire le tournage de 79 avec Lerner, Francine Kaufmann et Dominique Chapuis, et ensuite, en 2001, ils sont repartis, Lanzmann et elle, pour aller tourner sur les lieux, donc ce sont tous les paysages qu'on voit. Et ce que raconte Caroline, c'est que quand ils sont rentrés dans ce petit musée qui entretient autant l'oubli que la mémoire, ce qui est dit dans le texte au début, Lanzmann, donc dans le musée, il y a ça, cette liste, ces listes de convois avec les dates et les nombres de déportés, et c'est Lanzmann qui s'est mis à lire devant ces listes, et qu'à ce moment-là, ils ont commencé à filmer, enregistrer, et qu'il a lu d'une traite. Donc c'est Caroline qui le raconte, moi j'y étais pas, mais ça s'est fait comme ça, et ils l'ont pris quasiment sur le vif, quoi.
On sent, parce que surtout, des fois, il bifurque, il rajoute, ça doit être tel truc, il donne des précisions que lui, il est le seul à quoi. Enfin, moi, je ne comprends pas. Mais, oui, voilà, ça c'est. Et juste après, tu montres. Mais disons, le documentaire a toujours une dimension performative, juste pour revenir un peu à ce que... Pour moi, c'est ça. C'est que le documentaire, il y a quelque chose qui se passe devant la caméra. C'est-à-dire, dans ce sens-là, c'est la difficulté du témoignage, de travailler sur la mémoire, c'est comment est-ce qu'on peut ramener le passé et que quelque chose se passe à nouveau au présent devant la caméra. Il y a toujours dans le documentaire cette dimension. Si on passe, pour moi, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris du documentaire, de ma façon, en tout cas, à moi de faire le documentaire, et pour lui, pour Lanzmann aussi, je trouve, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait un vrai présent dans le film. Et sa difficulté à lui, c'est de le faire avec la mémoire. Le mien, c'est plus simple, parce que c'est avec le présent. Moi, la question que je pose, c'est la question du vivre ensemble, du présent et du vivre ensemble. Lanzmann, c'est la question de la mémoire. On n'est pas exactement au même endroit. Même si je m'intéresse aux tortionnaires, aux bourreaux, aux interrogateurs du régime, aux Basidji, aux Mollahs, tout ça dans mes films, mais à chaque fois, je me pose la question du présent. Finalement, comment on fait, quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant?
Oui. Et voilà. Disons que peut-être avant de lancer les premières photos, ton premier film, même si je sais que maintenant c'est un terme que tu étais justement quand même parti sur une question qui est une part de la question lanzmannienne, qui est de filmer l'ennemi. Même si je crois que tu es plus...
Je donne une autre réponse.
Voilà, tu donnes une autre réponse, qui est une des trois attitudes de Lanzmann dans Shoah, qui est de filmer les témoins, les survivants, de filmer les témoins oculaires polonais, et puis de filmer en les piégeant en caméra cachée la plupart du temps les bourreaux. Voilà. Et c'est aussi certainement de cette question de filmer des ennemis que tu es venu fait aussi le lien avec le cinéma de Lanzmann. Voilà. Jérôme,
est-ce que je peux rebondir sur ce que vient de dire Mehran? Tu as très bien dit que le documentaire consistait à faire revenir... Pas du tout, je suis 100 fois d'accord. En tout cas, je le suis autant que toi. Non, tu as dit que le documentaire consistait à faire revenir advenir le présent. Et je trouve... Alors, je voudrais poser une question technique, parce que ça paraît simple et même ça paraît à la fois évident et trivial, mais il filme des paysages, il filme des rues, c'est donc du présent, c'est de l'actuel. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est déjà arrivé dans le cinéma qu'on filme un lieu présent pour le faire en sorte qu'il évoque, non pas qu'il soit la trace, mais qu'il soit le moyen d'évoquer quelque chose que nous n'avons pas sous les yeux. Parce que ça marche très bien, le présent, on filme une forêt... Et tout d'un coup, cette forêt devient à la fois la nôtre et celle de l'époque, celle du transport de Yehuda Lerner. Moi, j'aimerais bien savoir si ça a déjà été utilisé comme ça. Tout d'un coup, je trouve que c'est assez gonflé et inventif, même si ça paraît évident. Qu'est-ce que tu en penses, Mehran?
Arnaud, il sait peut-être mieux.
Que dans Basidji, ton premier film, dont on n'arrive pas, mais on finira par en voir des images tout à l'heure. Non, mais y a toute la première partie du film se déroule sur un lieu de mémoire, un lieu de mémoire de la guerre Iran-Irak. Voilà. Enfin, je ne sais pas si, même si il ne s'agit pas effectivement de la démarche, puisque ce sont justement des monuments, des lieux hyper célébrés comme lieu de mémoire, alors que dans Shoah, Lanzmann se confronte au néant et au rien. Voilà, et il le fait. C'est pas du tout la même. Mais par contre, ce qu'on va, la réponse est ici sur cet écran, c'est que c'était sur l'écran. Retour à Auschwitz qu'on montrera. C'est un film de 1967 de la télévision française et qui justement est selon l'histoire le premier film où des survivants témoignent sur le lieu
des survivants d'Auschwitz témoignent sur le lieu, parce que c'est un film de télévision qui a été fait dans le cadre de la construction du monument international d'Auschwitz en 1967. Et là, il y a Philippe Alphen, qui a été lui-même détenu à Auschwitz III, l'un des oui. co-réalisateurs, qui s'entretient avec des survivants. Voilà. Et à la fin du film, et là, je divulgâche, mais à la fin du film, il y a aussi un entretien avec un bourreau, enfin avec un collègue, un autre médecin d'Auschwitz qui parle de Mengele. Voilà. Donc c'est... Voilà, ça a été... Bon, selon un ouvrage qui s'appelle « La Shoah à l'écran » de Julie Meck, j'espère que je n'écorche pas le titre de l'ouvrage, voilà, elle parle de ce film de 1967 comme d'une voilà, et d'une préfiguration effectivement de Shoah, dans la mesure où on fait témoigner sur le lieu des survivants et on s'entretient avec un bourreau aussi.
Mais moi je parlais de la photographie de paysage. Hein, pour en faire quelque chose d'évocateur.
Je pense que ça, c'est quand même je crois que ça a déjà été fait, mais la différence ici, c'est quand même l'intention. C'est-à-dire que, en fait, tout a été filmé, je dirais, mais l'intention qui est derrière ce qui a été filmé fait qu'on perçoit les choses différemment, quoi. Une anecdote très marrante, c'était le chef opérateur de Kiarostami qui filmait pour le fils de Kiarostami un plan de coucher de soleil. Et donc le fils de Kiarostami dit à son chef op, donc qui est le chef op Le goût de la cerise ou un autre de ses films, il dit alors t'en penses quoi de ce plan de coucher de soleil? Il dit ce plan je l'ai déjà filmé 518 fois. Donc tout dépend de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après. Et là, c'est pareil. Je dirais que je pense que c'est quand même quelque chose qui a déjà été filmé. La différence, c'est peut-être que lui, c'est quoi l'intention qu'il met derrière? Est-ce que c'est pour aussi dire que ces espaces-là, ces forêts sont habitées par cette mémoire-là? Et on le sent parce qu'il y a cette voix au début, ce texte au début qui raconte ça et qui explique. Pourquoi est-ce qu'on va voir tous ces... Il nous prend par la main quand même. Au début, il nous explique, on va aller voir là, il y a des trains qui aujourd'hui transportent du bois, il nous raconte un peu tout ce qu'on va voir, qui fait que d'un coup, on va donner du sens quoi, à ces paysages qu'on va traverser. Je le dis parce que moi, dans une des versions que j'ai vues, il n'y avait pas le texte, donc je vois vraiment la différence. Quoi. Ah ouais. Oui.
Merci beaucoup. Désolé, j'essaye d'aller vite, mais il y a une question que j'avais vraiment envie de poser pour rebondir sur cette histoire de verset de l'Exode. Là, je crois que ça doit être 20, 18 ou 20, 15 selon les Bibles, et tout le peuple voit les voix. C'est parfaitement vrai que dans la plupart des traductions chrétiennes, les gens n'ont pas accepté l'idée qu'on pouvait voir des voix. Donc parfois, c'est ni le verbe voir qui est utilisé, ni le substantif voix. On dit on entend le tonnerre et les trompettes, etc. Mais dans les versions francophones, de la Bible hébraïque traduite par des juifs, c'est l'expression « voir les voix ». Le problème, si je puis dire, c'est que Israël hésite toujours entre le voir et l'entendre. Écoute Israël, le schéma Israël, c'est plutôt l'audition, et le voir, bon, c'est la vision. Ce qui me semble important, c'est de rappeler qu'au moment de la révélation, puisque c'est là où se situe le verset, il y a aussi le commandement qui interdit les images. J'ai l'impression qu'il y a une telle tension entre cet interdit des images et l'amalgame parfait qui est fait entre le son et la vue, qui est consubstantiel à la question du cinéma, que je me demandais si Lanzmann avait travaillé là-dessus, avait réfléchi à cette question en particulier, parce que... le message de Lanzmann avant le film, au début du film, me semble d'une telle actualité, et la question de l'image, de la possibilité de l'image et de la possibilité du regard me semble d'une telle actualité ces jours-ci, à l'heure où le film sur les événements du 7 octobre est diffusé dans certaines institutions auprès de certains journalistes, etc., que je voulais quand même soulever cette question par rapport à toutes ces questions autour du judaïsme et du rapport entre la vue et l'ouïe.
Merci. Intéressant, en tout cas, ce que vous dites. Alors, on va peut-être éviter le 7 octobre.
Mais en tout cas, pour juste dire ce que je peux... C'est que Lanzmann n'était pas un religieux. Hein, il était... C'était pas un juif religieux, mais cette culture du texte et de l'image. Et puis vous dites l'interdit de l'image, on a parfois, et on y reviendra longuement au cours de la rétrospective, notamment dans une table ronde sur aussi certaines prises de position qui ont pu être carrément considérées comme iconoclastes, contre l'image, etc. Alors que bon, il a quand même réalisé et mis en scène de nombreuses heures d'images et de sons. Mais disons que c'est aussi très intéressant de voir que c'est un cinéaste qui était... qui était... laïque, non religieux, mais qui en même temps certainement recevait toute une culture. Il avait aussi des discussions spirituelles avec des gens avec des religieux, aussi bien d'ailleurs du judaïsme, mais aussi du christianisme. Voilà.
Est-ce qu'il y a intéressant dans ces autres films, je suppose que vous avez vu ces autres films sur, par exemple, Pourquoi Israël, vous l'avez vu ou pas ? Je sais pas. Non. Là, ils discutent, même quand ils discutent religion, c'est pas du tout pour se mettre à distance ou juger. On sent que c'est un athée, mais il est là, il cherche vraiment à comprendre, quoi. C'est-à-dire, il rentre, il dit, ok, mais ton point de vue à toi, c'est ça, et il rentre à l'intérieur de ce point de vue.
Dans la pensée de l'autre.
Dans la pensée de l'autre, mais cet autre-là, c'est toujours... C'est toujours l'Israélien, hein. C'est jamais le Palestinien. Mais il n'empêche qu'il rentre quand même dans son corpus à lui, il rentre à l'intérieur de la pensée de l'autre qu'il ne partage pas forcément.
Alors, est-ce qu'on va ne pas être iconoclaste avec tes images? Mais non, ouais, on ne va peut-être pas y arriver. On va peut-être pas y arriver, hein.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que Claude Lanzmann a toujours travaillé avec des traductrices en direct, simultanées, ou est-ce qu'il a employé des fois les sous-titres? Parce que moi, il m'est arrivé au cours du visionnage de regretter par moment l'absence de sous-titres. Ça aurait pu être un tout petit peu plus condensé le film. Enfin, c'est un avis personnel. Est-ce qu'il était contre les sous-titres dans ses films? Enfin, le sous-titrage des traductions.
En fait, le truc, c'est que techniquement, c'est assez compliqué parce que lui, il ne parle pas l'hébreu.
Oui, non, mais après, pour
comme
le montage.
Pas
pour
le regardez montage. Ce que ça donne. S'il ne parle pas l'hébreu, il pose une question, par exemple, à la traductrice. La traductrice traduit en hébreu et il doit faire une grosse coupe entre le. Et il ne va jamais comprendre ce que dit l'autre. Il ne va pas comprendre ce que dit le personnage. Il est obligé d'écouter la traductrice.
Je vous parle donc du montage. Obligatoirement, il est obligé d'avoir une traductrice, mais je parle du montage du film.
Oui, ce que dit Mehran, c'est qu'à partir du moment où on est obligé de couper, on perd tout, on perd la vie.
Oui, en fait, le truc, ce qui est très compliqué, c'est que lui, il va perdre l'instant où il comprend ce que dit l'autre. Alors, et à un moment donné, à quel moment il comprend ? Il comprend quand l'autre parle, mais qu'on comprend aussi, Lanzmann, il comprend aussi lorsque c'est traduit. C'est à ce moment-là qu'il comprend. Donc là, il comprend, du coup, il réagit à la traduction. Vous voyez ? Et c'est ça qui est très compliqué, parce que finalement, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus télévisuel, où ce qui compte, c'est juste la parole, et pas quelque part le lien qu'il y a entre les deux, quoi. Et pour qu'il y ait le lien, on est obligé de passer par l'interprète. voyez ? Et c'est ça la difficulté, en fait, c'est ça qu'il a réussi à... Enfin, moi, je trouve... Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu long, mais il faut accepter cette longueur-là pour accepter, quelque part, le cinéma, quoi. Pour que ce soit du cinéma.
Et des images. Si d'accord des images, oui, oui. Bon, il a... C'est une position éthique, esthétique. Hein,
ouais. Et puis, l'image est révélatoire, je ne sais pas si le mot existe.
Oui. Lui, il comprend que lorsque elle parle. Comment il faut faire dans ces cas-là?
Et voilà.
Oui, oui. Oui.
Nous, on comprend parce que...
Oui, c'est, enfin, effectivement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus, parce que en fait, ça nous donne ce temps de latence où on est aussi dans l'observation de l'écoute de ce personnage qui écoute la traductrice. Et donc, il y a un temps présent, du présent de l'interview, qui est resitué par le fait de ne pas utiliser les sous-titres. Puisqu'il y a ce temps où on entend deux fois d'abord la parole non comprise puis comprise, on voit le personnage qui réfléchit à ce qu'il vient de dire, ce qui va peut-être dire, donc ça nous oscille dans un temps présent qui est beaucoup plus dense que si on avait une immédiateté des sous-titres. Donc, enfin, dans cette question du présent et du passé, ou de la réminiscence du passé dans le présent, la temporalité de l'instant est située dans justement ce temps de latence entre les deux langues.
Et on ne verrait pas le rictus de Lerner qui est...
Oui.
On attendait le micro, comme ça, tout le monde entend.
J'irais dans le même sens, car en effet, l'observation de Lerner est essentielle comme concentration à avoir, et les sous-titres sont toujours des raccourcis du langage. Donc là, il n'est pas question de sous-titrer en même temps, ça serait amputer complètement l'intérêt de la parole de Lerner. Sinon, ça serait des sous-titres comme ça serait très fastidieux, et vaut mieux avoir la voix de période, c'est indispensable. Voilà. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne, dans le message de Lerner, présent et passé, et mémoire et présent, on peut tout à fait comprendre sans avoir à commenter comment c'est présent. La mémoire est totalement présente, quoi, je veux dire, chez lui, vu ce qu'il a vécu, etc. Mais par contre, ce qui est très très étonnant. Alors, moi, je n'ai pas la connaissance de la Bible ni ce qu'on peut faire comme parallèle, mais le message au début, c'est deux tentatives ont avorté. Celle-ci réussit, mais alors, on ne sait pas par quel bout trouver que c'est tellement magique, parce que la synchronisation, le fait que les Allemands soient ponctuels, oui, mais enfin, il se retrouve être celui qui doit tuer, puisque c'était son compagnon qui devait tuer, et il est guidé, quoi. Il est guidé immanquablement. C'est étonnant, parce que quand on a un acte de violence, comme cela aussi parfait. Comment dirais-je, parfait dans la synchronisation, et il n'a même pas après la décharge, il est fatigué par tous, mais il n'y a pas la, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si c'était il y avait eu une aide qui lui permette de réagir comme ça. C'est incroyable, quoi. C'est pas comme s'il y avait simplement un plan où les autres ont... il s'est retrouvé à la place d'un autre, comme si... Bon,
mais en fait, moi, vous savez ce que j'ai compris quand il a fait, en fait, du personnage, hein, je parle de Lerner, c'est que j'ai l'impression que Lerner est en fait quelqu'un de assez pragmatique. Non, je vous dis en quoi. C'est-à-dire, il tergiverse pas. Déjà, par exemple, il dit, attends, je suis hyper maltraité, je vais me casser, parce que là, ça va pas. Et non, mais c'est vrai, parce que c'est pas évident de raisonner comme ça. Quand il dit, par exemple, c'est quoi la taille de la hache, il dit. Bah, c'est une hache, t'as pas vu, c'est une hache, c'est... Ok, d'accord, elle était un peu plus courte que prévu, mais ça reste quand même une... Donc il a un côté un peu, quelque part, pragmatique, qui fait que moi j'aurais été là en disant, je vais jamais y arriver, même si je... peut-être que... Enfin, parce qu'on se met dans sa situation. Moi je me mettais dans sa situation, je me disais, en ce moment, je coupe pas mal de bois, je fends comme ça. Et je me disais, mais j'aurais, je pense que j'aurais tapé à côté. C'est-à-dire, j'aurais tapé sur l'épaule ou quelque chose. Parce que, mais lui, il a ce côté un peu, j'ai l'impression, hein, de pragmatique qui fait qu'il a, il a agi. Il a dit, il faut agir. Bon, bah, on agit. Et puis, de la même manière qu'il a fait. Ah oui, excusez-moi, je dis ça parce qu'il a, il y a autre chose qui m'a fait penser à ça. C'est quand il est dans le... Tu sais, il est dans... il rencontre les Allemands qui l'arrêtent. Et donc, on lui dit, mais t'étais où? Il dit, bah, je me suis enfui d'un autre camp. Tu vois? Il raconte... Oui, il raconte pas de baratin, quoi.
Mais il dit qu'il n'aurait pas pu, étant donné sa mise et, son, oui. et sa maigreur.
Oui, oui, voilà. Donc, il dit, de toute façon, c'est peine perdue, donc il vaut mieux que je dise la vérité, quoi. Donc, mais il n'empêche, c'est hyper intéressant comme posture. Moi, c'est la posture, c'est la mienne dans mes films, c'est celle de... C'est plus, en fait, moi, j'imite plus Lerner que Lanzmann, peut-être. c'est un film que j'avais vu avant de faire les films. Donc, ça tombe bien. Non mais c'est vrai.
Non
plus,
mais la dimension pragmatique, c'est, je trouve ça très intéressant de voir le et de revoir, de se réimaginer, enfin de reparcourir le film sous cet angle.
Oui, il est hyper pragmatique. Et puis il y a un autre truc, c'est que quand on l'arrête, non, mais sur le coup je me le disais aujourd'hui, mais on l'arrête et puis il dit, en fait il compte sur le fait aussi, pardon, hein, mais je suis en train de dire peut-être des grosses bêtises. Mais sur le fait que si je suis moi-même, il y a plus de chances que je m'en sorte dans cette situation. Ce qui n'est pas complètement... enfin, ça marche peut-être une fois sur mille, mais peut-être que s'il n'était pas lui-même, ça ne marcherait pas du tout. Tu vois. Et voilà, donc il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Quoi. Il est lui-même, il raconte le truc. D'ailleurs, il se rappelle de tout, il n'y a pas de déni. Il se rappelle de toute la scène, du début à la fin, alors que c'est une scène... Même si il en est fier, c'est quand même traumatisant, quoi. Mais il se rappelle de tout, tu vois, dans le moindre détail, il le refait, il est hyper fier de son geste. Donc voilà, donc il a un côté un peu comme ça, j'ai l'impression de pragmatique.
D'ailleurs, c'est ce que Lanzmann admire beaucoup chez lui, puisque dans le petit carton, il parle de, je ne sais pas quel est le qualificatif, mais il parle de son courage inlassable, donc il aime bien la vitalité de cet homme, il l'aime beaucoup et... Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il est muet, d'ailleurs, il le laisse parler, parce qu'il il a du...
Mais des fois, on voit son ombre, où il dit « continue », et il dit rien.
Ah, ça, je n'ai pas remarqué.
Sur la droite, là, tu as vu ou pas? Il y a deux, trois gestes un peu comme ça.
Ouais. Ah, pas mal. Bonne observation.
Non, et ce qui est intéressant, c'est cette dimension hyper pragmatique, qui est souvent aussi... celle de Lanzmann qui pose jamais des questions
c'est pragmatique, c'est, il faut comprendre
combien voilà, exactement, voilà, merci. Lerner, et on pourrait revenir au plan divin, enfin, en tout cas quelque chose de, d'une allégorie d'un personnage biblique, l'homme désarmé qui presque, on pourrait presque dire que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, là, une aide, il est guidé, c'est la hache qui est guidée par une sorte... Et donc c'est très beau, je trouve, le double mouvement du film, à la fois voilà, d'un témoignage, comme tu dis, marqué par une simplicité pragmatique, et puis une dimension allégorique très, très forte. C'est comme une sorte d'épisode biblique qui viendrait s'ajouter à la Bible.
Alors, juste avant de passer à peut-être à autre chose, il y a un autre truc, moi, parce que j'ai lu pas mal, un texte de Anna, je l'ai lu plusieurs fois, un texte de Anna Arendt qui s'appelle Responsabilité et jugement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, en fait, c'est un livre dans lequel il y a plein d'articles, et c'est un peu fait allumer après le procès Eichmann. Oui. Eichmann à Jérusalem. Donc, elle a dû, la pauvre, écrire plein d'articles pour dire, voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Et donc, là-dedans, dans ce livre, elle dit, en fait, qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas la pire des choses? Là, je parle des. Qu'est-ce qui fait que Eichmann. Comment est-ce que Eichmann aurait pu ne pas le faire? Voilà, dans quelle situation? Et il dit, elle explique que ceux qui ne font pas ne sont pas ceux qui disent « je ne veux pas le faire ». Tu vois ? C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser le verbe « vouloir ».
c'est le verbe pouvoir, c'est que je ne peux pas. En fait, tu baisses les bras. C'est-à-dire, ce qui fait que tu ne fais pas, c'est que tu n'arrives pas à le faire. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à agir. Je parle des nazis. Hein. Je trouve intéressant de dire finalement à quel moment est-ce que le verbe vouloir il devient possible, tu vois. Vas-y. Tu vois.
Les Einsatzgruppen étaient ivres. Ils ne pouvaient pas. Pour le peu que je sache, on a beaucoup. Moi j'ai lu des choses disant que les Einsatzgruppen s'enivraient. Pour arriver à le faire. Parce que c'était trop. Alors ils sont allés jusqu'au bout, mais on dit que beaucoup s'enivraient. Et moi j'ai été à Schengal, où il y a eu le grand pogrom des Yazidis en août 2014. Je suis arrivé quelques mois après, et les gens m'ont dit, ceux qui ont déboulé étaient ivres. Alors ils étaient ivres au Captagon, hein, ils n'étaient pas ivres à l'alcool, mais ils étaient ivres. Et ils hurlaient de joie. Donc je ne suis pas sûr de ça, parce que même pour un bourreau, quelquefois, c'est trop, et ils y vont. Mais.
Non, mais en fait, il questionnait là. Il dit dans quelle situation il n'y aurait pas eu d'action. C'est ça qu'il dit. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire. Il dit la plupart se sont barrés, quoi. En fait, et je ne sais pas si vous avez. Bon, on bifurque sur autre chose.
Oui. Ouais.
Pardon, on a pas fini ta phrase.
Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant.
Bon. Parce qu'après, il y a un autre. Il y a le livre qui s'appelle L'histoire d'un Allemand. Je ne sais pas si vous connaissez, de Sébastien Hafner. Tu connais? C'est un super livre qui explique.
Je ne sais plus où nous en sommes, mais nous allons. Est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est le moment quand même où. Parce qu'on a pas mal bifurqué, mais donc peut-être on va montrer les quatre premières images, hein, Jérôme, une demi-heure plus tard. Donc de Basidji, qui est ton premier long métrage, où tu me reprendras si. Où le principe, c'est de parler, toi, iranien vivant en France, laïque, progressiste, quelle rencontre et quel dialogue et quelle parole et quel commun, peut-être, tu peux établir avec les Basidji, qui sont les défenseurs du régime, une milice. Civils défendant le régime. Voilà. Donc on va voir quatre images qui sont quatre configurations de ta présence de metteur en scène. Et aussi les sous-titres sont. Commenter. Voilà, tu dis, toi tu mets en place des dispositifs, alors peut-être nous parler des. Je crois qu'on en voit.
Moi, je filme le fait que je n'ai pas toujours la bonne réponse. En fait, je filme quelque part le fait que je suis un peu dépassé, un peu ébranlé, un peu fragile. Déjà, je le fais parce que quand on est dans une dictature comme celle de l'Iran, on a intérêt à ne pas faire trop le malin, quoi. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ce que fait Lanzmann lorsqu'il est en train de faire des caméras cachées, quoi. C'est impossible de faire ça là-bas. Et là-bas, il vaut mieux tâter un peu le terrain, voir jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut aller plus loin. Dès qu'on est fragile, le reconnaître aussi. Et puis, ce premier film, j'ai mis très longtemps. Alors, je l'ai monté avec une grande monteuse du cinéma français qui s'appelle André D'Aventure, qui est décédée maintenant. Je pense qu'elle aurait été vivante, elle aurait eu 90 ans. Il était un peu en fin de vie, fin de carrière lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. Et c'est au milieu de ce film, disons, comme je filmais les Basidji, donc la milice du régime iranien, et assez vite le film aurait pu m'échapper et devenir un film de propagande, quoi. Parce que je leur donnais la parole, parce que j'étais chez eux, parce qu'ils étaient hyper séduisants, parce qu'ils ont 10 000 arguments, parce que. Comme ils sont chez eux, ils développent leurs arguments et que toi, tu es fragile, tu ne peux pas forcément te permettre de répondre. Donc, à un moment donné, la seule solution que j'ai trouvée, ça c'était en plein milieu de montage, c'était dans une discussion avec Dédé d'Aventure, c'était d'être filmé, d'être moi aussi filmé. En fait, c'est ce qui allait sauver ma peau, quoi. Ce qui allait sauver ma peau dans le film, pour le spectateur, c'était qu'on voit ma différence entre eux et moi. C'est qu'on me voit, on voit que le mec, il est devant des gens qu'il craint, et qu'il bégaye des fois. Il est fragile, il bégaye, il n'a pas toujours la réponse. Donc petit à petit, progressivement, j'ai travaillé un peu cette posture-là. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, on est chez eux, mais c'est ma caméra. Donc du coup, c'est quelque chose, avoir une caméra chez eux. Chez eux, c'est-à-dire en Iran, quoi. Et donc, je mets en place quelque chose qui m'appartient. Donc j'ai mis en place quelque chose qu'on appelle un dispositif. Dans le film, là, c'est la séquence où ils sont les quatre comme ça devant la caméra, où je leur demande de répondre aux questions de gens qui ont peur d'eux. C'est-à-dire des Iraniens qui sont comme moi, qui ont peur de venir devant la caméra. Je leur demande de poser... Donc j'ai enregistré des voix. Et je dis, il y a des gens qui ont peur de vous, mais ils ont des questions. Est-ce que vous acceptez de leur répondre ? Donc ils disent ok, donc je les assois un peu comme ça en rang d'oignon et ils acceptent. Ça fait un peu procès avant l'heure. Je me disais voilà, c'est le premier procès de défenseurs de la République islamique. Je l'ai filmé en documentaire en plus, mais pas en fiction. Et donc voilà, moi à chaque fois je fabrique des choses qui sont un peu des. Donc du coup c'est je fabrique des espèces de cadres à l'intérieur de ce grand cadre qu'est la République islamique. Et voilà, c'est né un peu avec Basiji, quoi. Déjà, le fait de devenir personnage pour sauver ma peau, et ensuite de mettre en place des dispositifs qui...
Jérôme, est-ce que tu peux remettre la deuxième diapo de Basiji ?
Oui.
Non, troisième, alors.
Celle-là. En fait, c'est les deux haut-parleurs. C'est vraiment bancal, hein. C'est vraiment fait à l'arrache, mais en tout cas, c'était un peu ça l'idée. Eux, ils s'assoient. Lui, il s'est mis là-bas exprès pour que ça ne fasse pas trop procès. Moi, je n'étais pas très content parce que je voulais qu'il se mette vraiment en face. Lui, il comprenait un peu le sens. Et d'ailleurs, ça démarre comme ça en disant « Tu ne veux pas mettre des numéros sur nos poitrines ?» Et ça, c'est filmé, tu vois, c'est filmé. Et c'est dans le film. Il dit « Tu mets des numéros sur nous, quoi, si tu veux. » Voilà. En tout cas, le fait qu'ils acceptent le jeu, ça disait beaucoup. Je trouvais que c'était très intéressant politiquement. C'est bon, ça y est. Après, alors, l'image suivante, donc du coup, pardon. Et donc là, dans cette image, c'est le personnage avec qui je deviens très proche ou que je fréquente. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui soutient jusqu'à maintenant tout. Jusqu'à aujourd'hui, il soutient tout ce qui se passe en Iran. Et c'est à chaque fois que je l'ai au téléphone, il défend la République islamique. Et moi, je m'énerve. Mais maintenant, je peux m'énerver parce que je suis dehors. C'est au téléphone, sur WhatsApp, c'est plus facile. Hein. Et donc, là, je ne comprenais pas aussi une autre chose. C'est qu'en filmant, en le filmant, lui et moi, je ne filme pas uniquement la différence. Je me rasais bien, je me disais, il faut que je sois bien rasé. Mais il n'empêche que je ne filmais pas uniquement la différence, je filmais aussi la proximité, quoi. Moi, je voulais pendant un moment comme ça, vraiment face à face, quoi. Oui. Face à face. Et ça n'a pas pu se faire parce que c'était gênant, pour tout un tas de raisons, ça n'a pas pu se faire, technique aussi. Donc, mon chef-op, il a dit mets-toi là et là. Moi, je n'étais pas content qu'il me propose ça. Bon, bref, en tout cas, on s'est mis comme ça et comme ça. Et ça parle aussi du lien. Mais en fait, c'est vachement bien. Au bout du compte, je suis très content de parler du lien. Mais c'était assez dur à assumer. Devant la caméra, devant le public, un public qui les déteste, parce que le public iranien, en France ou ailleurs, ne comprend pas que je sois, moi, assis à côté, à sourire aussi, à dire d'accord, des fois. Parce que des fois, j'étais aussi d'accord. Il m'arrivait d'être d'accord. Et voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui fait que moi, en tout cas dans ma posture à moi, si on doit faire une distinction, c'est que moi, je fais des films qui m'ébranlent moins. en fait. Je fais des films qui sont des expériences qui me transforment, quoi. C'est devenu un peu comme ça, grâce à ce film.
Peut-être on peut passer les quatre... Donc le film suivant est directement dans la continuité. C'est Irania, 2014. Merci Jérôme. Peut-être si tu peux nous parler de la continuité et puis d'une forme de presque de radicalisation
oui, parce que si j'essaie un peu de comprendre ce que je faisais, je les filmais eux, je suis rentré dans leur milieu, au fur et à mesure je me suis dit, attends, le film il devient un film il peut devenir un film de propagande pour la République islamique, après ça les gens ils vont se convertir au régime et donc au milieu j'ai fabriqué ce dispositif de 15 minutes qui est le procès dont je vous ai parlé, et puis après c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait non. En Iran, moi, si je veux filmer le pouvoir, c'est ça qui m'intéresse, filmer le pouvoir et fabriquer un rapport de force avec ceux qui ont le pouvoir. C'était ça ma question. Comment fabriquer un rapport de force avec ceux qui ont le pouvoir, quoi. Et le face-à-face, c'était ça. Et je me suis dit, ce rapport de force-là, ben, je vais y aller jusqu'au bout, je vais fabriquer un dispositif, je vais inviter quatre mollahs à habiter avec moi dans une maison pendant 2 jours. Ils vont venir avec moi. Donc, en fait... Moi, je dis la moitié du dans ma façon à moi de faire des films, la moitié du travail du réalisateur est de convaincre. L'autre moitié, c'est de trouver une mise en. Mais déjà, si on arrive à convaincre 4 mollahs à venir dans une maison, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, j'ai mis 2 ans et demi pour les convaincre. En trouver 4. Déjà, disons, apaiser ma rage, parce que moi, ce que je disais, c'est que moi, je filme le présent. Je filme pas la mémoire. Je filme pas le passé, je filme le présent. Et au présent, je suis très énervé, quoi. Très énervé parce qu'il y a des révoltes, parce que y a mes amis partent des fois en prison. Là, il y a des amis que j'avais en prison il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc à chaque fois, il y a une rage à dépasser soi, quoi, pour pouvoir parler à l'autre qui peut être l'ennemi aussi, qui est l'ennemi d'ailleurs en grande partie, parce que il justifie tout. Il justifie tout, t'as juste envie de vomir des fois, t'es tellement énervé quand tu rentres. Ce qui fait que je supporte ça, en fait je crois que je ne suis pas quelqu'un de très tolérant. Ce qui fait que je supporte ça, c'est que je filme. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où des gens disaient des horreurs. S'il n'y a pas de caméra, je le rentre dedans. Et donc là, ce qui fait que je les supporte, c'est que je fais un film. Et voilà, donc du coup, j'ai proposé à 4 mollahs d'habiter avec moi dans une maison, je les ai convaincus. Et donc, afin de voir dans quelle mesure il est possible de partager un espace alors qu'eux, ils défendent la République islamique et que moi, je suis athée. Est-ce que, donc, c'est le sens des photos qui sont par terre. Après, il y a une bibliothèque qui se rajoute. Après, il y a plein de trucs. C'est à chaque fois, finalement, est-ce que ma femme, elle peut venir ici pas voilée? Est-ce que je peux avoir mes bouquins? Est-ce que je peux avoir mes photos? Est-ce que je peux vivre, quoi? Est-ce que j'ai le droit de vivre dans ce pays ou bien c'est que à vous?
Mais qu'est-ce que tu leur dis pour... Qu'est-ce que tu leur dis pour les inviter 2 jours? Tu leur dis, je ne suis pas d'accord avec vous, oui. Et vous avez la possibilité de vous expliquer. Comment tu leur dis?
Je dis, la plupart des gens trouvent que vous êtes des gros salauds.
Oui.
Ok, mais au moins, cette fois, vous avez un micro et la possibilité de défendre, dire que non, déjà.
Ça, donc, c'est ils te mettent dans quel camp?
Ils me mettent dans le camp adverse.
Ils te mettent dans le camp adverse?
Oui, oui. Ils me mettent dans le camp adverse, mais ils disent, mais bon, lui, au moins, il est bienveillant, il est fair-play.
Il est fair-play.
Ce qui est vrai, hein, je suis fair-play.
Oui, mais...
Je triche, mais...
On ne peut faire de film que si on est fair-play. Hein.
Oui, oui, oui. Mais disons, voilà, en fait, ça, c'est ma posture à moi, était celle-ci. Était la posture de toujours donner la possibilité à l'autre de tirer le meilleur de lui-même, quoi. Aussi.
De dire qui il est.
Par exemple, eux, tirer le meilleur d'eux-mêmes, ce serait de... Déjà, de dire, de lâcher des choses. Et aussi, de voir comment est-ce qu'ils réagissent devant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux. C'est quelque part, ils deviennent un peu meilleurs. Le fait qu'on entende qu'ils sont capables d'entendre. Qu'on voit qu'ils sont capables d'entendre. Et donc, parce que c'est trop facile de dire, l'autre, c'est le diable, c'est horrible, c'est mal. Il n'existe pas, cette personne-là. Quasiment pas. Peut-être qu'il existe, mais vraiment dans des cas particuliers. Mais ce gars... qui est inaudible, qui est incapable d'entendre, incapable de parler, incapable de quoi que ce soit, ce gars-là, il est un peu abstrait, quoi. un peu construit, il est fantasmé. Pardon, hein, je sais que c'est pas du tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tellement mille fois incommensurable. Mais il n'empêche que Lerner, quand il dit, je me suis évadé d'un autre camp. C'est pour ça que je dis que je suis assez proche de ce que lui fait. Ce qu'il dit, en fait, je me suis évadé d'un autre camp. Moi, je fais un peu ça, quoi. Je dis, je suis proche de la démarche de Lerner que de Lanzmann, c'est dans ce sens-là. C'est que moi, je dis, oui, je viens de la France, mon père était communiste, ma mère aussi, je suis athée. Et j'ai vécu avec une fille. Là, il y a une des scènes où je suis en train de dire, j'ai vécu avec une fille sans être mariée. Ils tombent des nues, tu vois, quand je leur dis ça. Tu vois, c'est, pour eux, c'est inimaginable. Mais en même temps, ils se disent, mais donc, on peut avoir une éthique et être comme ça. Donc, c'est possible. Mmh. Tu vois. Voilà, donc, c'est... moi, j'ai l'impression... Voilà, c'est, si on doit refaire le parallèle avec Lanzmann et Lerner, finalement, c'est bien choisi. Hein, le...
ouais. De façon très, très involontaire. On va... je crois qu'on ne va pas être loin de, la, de 17 heures. On ne va pas trop... prolonger la séance, mais en tout cas merci beaucoup Mehran de ce merci. De se prêter à cet exercice pas très simple voilà, mais avec beaucoup de générosité. Et puis je merci aussi à nos projectionnistes, enfin Jérôme en l'occurrence, voilà. Et si tout va bien, la rétrospective Claude Lanzmann se reprend vendredi, samedi, dimanche, lundi, etc. etc. Bonne journée. Merci.